Bonjour, il est 17h sur France Inter. Les nouvelles en France? Alors d'abord à Paris, Nicolas Sarkozy. Ensuite, un peu plus dans le sud, vers Lyon, Nicolas Sarkozy. Bon, et puis pour finir, la météo. Nicolas Sarkozy. Ciao.
Je téléphone parce qu'il est 18h02, ce 1er décembre, et je viens d'apprendre sur les antennes de France Inter que Juppé n'a qu'un an, une année d'inéligibilité. C'est une honte. Une honte absolue. J'ai honte pour la France. Honte. Chirac, il a intérêt d'être se représenter et d'être président encore pendant 5 ans de plus, c'est en 2007. C'est une honte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis dégoûté. Je ne sais même pas si je vais aller voter. Et pourtant, je suis conseiller municipal de mon village. Allez, ciao.
Oui, je suis un militant socialiste. Hier, j'ai voté en conscience contre un projet de constitution qui inscrit l'économie libérale dans le marbre européen. Celui qui pèse sur le dos de 450 millions d'Européens. Et depuis ce matin, j'entends la droite se féliciter dans les médias, en particulier VGE, se féliciter du résultat du référendum dans le Parti Socialiste. Alors quand j'entends ça, je me dis que François Hollande devrait se rappeler de ce que disait Lénine. Quand la bourgeoisie m'applaudit, je me demande quelle faute j'ai bien pu commettre. C'était François près de Toulouse.
Eh bien, ça devient une manie hein, chez les socialistes. Pour la deuxième fois, ils ont servi la soupe à messieurs Chirac, Sarkozy et Madeleine aussi, qui est venu soutenir l'autre jour dans une émission qui s'appelle Riposte, je crois, le oui de monsieur Hollande à la Constitution. Voilà, ça devient une manie. Une fois, c'est pour éviter Le Pen, cette fois, c'est pour éviter Fabius. Franchement, bon ben je crois que pour éviter de ne pas voter pour l'extrême droite, je ne vais plus voter du tout. Hein. C'est décevant. Je ne connais pas tout de la Constitution, bien sûr je ne l'ai pas lu. J'ai écouté les arguments, et ma foi, même si je n'apprécie pas spécialement Monsieur Fabius, je crois que les socialistes ont voulu éviter d'avoir un homme intelligent pour une fois à leur tête. Hein. Enfin je sais pas... Je suis complètement déboussolé, alors tu vois, comme ils sont contents, les Chiraciens, les Sarkoziens et compagnie, le référendum va passer, la gloire ne retombera pas sur M. Hollande, mais sur M. Chirac, bien sûr. Encore de belles années pour la droite, enfin bon. Eh ben tant pis, je voterai plus, parce que je veux quand même pas en arriver à voter pour l'extrême droite, hein, au bout de 60 ans d'élection. Allez, salut à tous, de toute façon, tout le monde s'en fout. Hein. Allez, ciao.
Bonjour, c'est Brigitte à Paris. Bon, alors je vais laisser un petit message qui était constitué du mot « merde » au moment de l'élection de Bush. Vous aviez eu la gentillesse de passer. Et bien là, pour la Constitution européenne, et ben heureux, hein, je le dis aussi, parce que c'est pas très étonnant que le PS ait voté massivement le « oui ». Mais disons que nous, les militants d'attaque et autres, nous allons avoir vraiment beaucoup de boulot, hein. Eh ben merde, allez, courage, on y va.
Bonjour Daniel, Alain à Nevers, fidèle auditeur tant qu'il le peut dans sa voiture. Oui, je t'entendais dire que tu partais pour le Venezuela voir des jolies filles. Ben, je t'en souhaite puisque j'ai mon fils qui est allé faire un stage au large de Caracas cet été à Isla Margarita et effectivement il paraît qu'il y avait de jolies filles. Bref, il n'y a pas que ça au Venezuela. Il paraît que la nuit, c'est un peu chaud quand même, faut faire attention. Oui, et puis en parlant de tourisme aussi, je voudrais revenir sur l'émission que tu avais faite sur la Tunisie, où tu disais que la démocratie était peut-être pas au top. Je suis un peu surpris, sachant que le fils de Monsieur Pasqua est résident permanent en Tunisie, avec un nom comme ça, si on ne respecte pas la démocratie et si on n'est pas propre, on n'irait pas dans des pays qui ne le sont pas, je ne le pense pas. Voilà, et puis vive Nicolas Sarkozy, je pense qu'on va encore en bouffer encore pendant quelques temps. À mon avis, je l'espère quand même, il va se fatiguer un petit peu. Voilà, donc un fidèle auditeur autant qu'il le peut dans sa voiture. Et puis, bon courage et bonne émission à toi. Au revoir.
Et ben voilà, tout ça, je l'apprends en écoutant le répondeur de la basse si j'y suis, ici, à Caracas. À Caracas, vous connaissez l'expression « prendre un aller simple pour Caracas ». Je ne sais pas si on l'emploie encore beaucoup, cette expression « prendre un aller simple pour Caracas », ça voulait dire se planquer, disparaître dans un coin sans foi ni loi. Et c'était pas faux. La foi, c'était le pétrole, et la loi, c'était celle du plus fort. Le Venezuela est le quatrième ou cinquième producteur mondial de pétrole, et c'est un pays où 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec une oligarchie qui fait la loi et qui s'est accaparée tout le gâteau. C'est le néolibéralisme dans toute son obscénité. 10% de la population détient et gaspille toutes les richesses du pays. Mais, Chavez, Hugo Chavez, depuis 1998, Chavez, tel Zorro, est arrivé avec son béret rouge et son sabre à la main, avec sa révolution bolivarienne, baroque et populiste, militaire, démago, bigot, mégalo, imprévisible, inculte et logorique. Tout le monde est contre lui. La droite, évidemment, c'est prévisible. La gauche, l'extrême gauche, l'Amérique, les médias, y compris certains médias français. Bref, tout le monde, sauf les électeurs. 9 fois de suite, depuis 1998, Chavez a remporté les élections. Et c'est comme cette pièce de théâtre fameuse dont un critique disait « Tout le monde déteste cette pièce, sauf le public ». Alors évidemment, ben c'est vers le public qu'on essaye d'aller, c'est vers les électeurs de Chavez, vers ces 80% de Vénézuéliens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui espèrent, c'est une espérance formidable, énorme, profonde qui est placée dans ce personnage, dans ce Chavez, et il ne faudrait pas que ce peuple vénézuélien soit déçu, car alors, la prochaine échéance, c'est les élections de 2006. D'ici là, à toute question gênante, on répond, c'est le processus. Il y a un processus qui est en cours. Évidemment, c'est une réponse un peu facile, mais c'est quand même ce processus que nous essayons de comprendre et d'approcher. Voilà. En attendant, aujourd'hui, retour à Harare. Harare, en Éthiopie, la ville de Rambo. Rambo, Harare, c'est Rimbaud pour nous. Actuellement, on célèbre Rimbaud qui est devenu un produit de consommation culturelle tout à fait courant, un produit d'appel pour vendre des numéros spéciaux, des éditions, etc. Ben, c'est peut-être pas si différent que ça à Harare. En Éthiopie, Rambo, bon, ça fait vendre, ça fait un peu de commerce, et puis voilà, c'est pas si mal. Autour de Rambo, il y a une ville formidable qui est Harare, que j'aime toujours, j'ai gardé des souvenirs formidables d'Harare, et surtout j'ai gardé un tout petit objet, c'est un petit bâton, une petite branche, un bout de branche, dont l'écorce est enlevée, mais de façon décorative, avec des formes géométriques, comme ça, c'est très joli, et c'est un petit morceau de bois qu'on vous vend le matin dans la rue au lever du jour et qui est une brosse à dents. On se brosse les dents, on se frotte les dents avec ce morceau de bois tout en marchant, en allant vers un travail hypothétique, vers un marché. Et je vous propose cette balade à Harare après quelques messages encore sur le répondeur de la base si j'y suis, dont vous connaissez le numéro par cœur 01 56 40 37 37.
Daniel. Tu sais ce qu'ils disent de Rastaman quand ils ont plus rien à fumer? Putain, c'est chiant le reggae. Hein. Ouais, ciao.
On refuse la fermeture de la maternité de la chirurgie à Anguillère dans les Vosges du Nord. Rassemblement devant la RH à Strasbourg.
Eh bien voilà, la nouvelle est tombée. Implacable. Le commis cuisinier de l'Elysée a donc bien piqué dans la caisse. Quelle tristesse, quelle déception. Si tu m'entends comme y cuisinier, je comprends que tu as voulu perpétuer la tradition de la maison, que tu as voulu faire de la lèche, en quelque sorte, franchement. 1 300 €, c'est quand même tombé bien bas. Hein. Pourtant, tu es bien placé pour demander conseil, t'as un bon prof sous la main, quand même. Enfin, bon. En parlant d'Élysée, je suis inquiet, parce que ce matin, j'ai écouté les infos, à 10h, 11h, à midi, j'ai bien bien écouté, et ben rien, pas un mot sur Nicolas. Il serait pas malade, un peu de surmenage, ça se pourrait se comprendre, quand même. Enfin, je suis bien inquiet. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît, parce que ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète. Allez, salut à tous.
La vache, oui.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Van Til. Là-bas, si j'y suis, balade à Harar, Éthiopie.
Flight number 2, arriving from New York.
Oh, regarde, ça c'est devenu. Les épiceries, on dirait vraiment des comptoirs. Hein.
Alimentation, et c'est écrit en trois langues.
Alimentation avec deux fautes d'orthographe. Non, une.
Une.
Alimentation. Et c'est vraiment des comptoirs. Il y a des balances en cuivre, des sacs de grains bourrés, des étagères avec des pots alignés. Ça, c'est la grande avenue de Harar. C'est... Oh, quelle couleur splendide, là. Ici, c'est les couleurs. Hein. Il y a un goût pour les couleurs. Contrairement au plateau, les femmes adorent ces vêtements blancs. Tiens, justement, pour me donner tort, il y en a une qui passe avec...
un gabi blanc.
Un gabi blanc. Mais sinon, quand même, ici, on aime la couleur. Ça rappelle tout à fait. Alors, on dit qu'il y a une influence. Regarde, le rideau est magnifique, là. Le rideau de perles qui représente un cocotier et un parasol. C'est superbe.
Là, c'est qu'il n'y a pas de deux baraques de la même couleur.
Non. Enfin, c'est beaucoup quand même des bleus pâles, des bleus turquoises, lessifs, comme ça, et des verts
Véronnais,
des petites maisons basses, assez basses.
Oh. Ça, c'est une chanson oromo. Je parle pas orominien, mais à la mélodie, je reconnais que c'est...
Orominien, on dit la langue, c'est orominien.
Oui, la langue, c'est orominien.
Oh, mosquée. Là, c'est superbe. Les gens adorent les couleurs, là. Hein. Et les maisons sont peintes en violet, rose, bleu. Le dôme de la mosquée verte avec... Le tout petit croissant doré. Qu'est-ce que tu fais, tu téléphones ?
Je téléphone à l'hôtel pour leur dire de débrancher le chauffe-eau. Parce que je l'avais...
Ah, ouais. Voilà quelque chose d'important. Ah oui, c'est prosaïque hein, ce détail. Tout d'un coup, notre ami qui éprouve le besoin de téléphoner à l'hôtel pour son chauffe-eau, c'est un peu tue l'amour, hein, ce genre de choses. Mais bon, il faut bien que tout se fasse, mais on arrive à Harar dans un état quand même d'exaltation, de fascination pour cet endroit qui a toujours été un attrait pour les voyageurs européens, occidentaux, enfin toujours, en fait le premier occidental qui est rentré dans Harar, c'était Richard Burton qui en 1850 a pu rentrer dans cette ville déguisé, parce que la ville était fermée à tout étranger, à tout chrétien encore davantage. Et donc, il a été le premier à entrer dans cette cité qui était interdite aux non-musulmans. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts depuis, beaucoup de sang est passé sous les ponts aussi depuis, sur le sol de cette ville d'Harar, qui est une ville qui fascine, comme on dit toujours dans les guides touristiques, les voyageurs, une ville littéraire. Et oui, c'est la ville du passant considérable de Rambo. Ici, les Rambo, les gens du coin, vous allez voir, disent Rambo. Les Rimbaldolâtres se retrouvent, alors que Rimbaud n'a laissé aucune autre trace que celle d'un aventurier et d'un commerçant. Alors, ville des caravanes, ville de commerce, ville de lutte de pouvoir et donc de religion. On essayait de contrôler cet axe commercial entre les hauts plateaux du Shoah, d'Addis, et puis la mer Noire. Et aujourd'hui, Harar est une enclave d'islam dans cette Éthiopie chrétienne. 99 mosquées à Harar. Ville close, de hauts remparts cernent cette ville, 5 portes. C'est une ville basse quand on entre, et c'est une ville coloriée. C'est une ville en couleurs, des blancs, des bleus, des émeraudes, des beaucoup, beaucoup de couleurs. Les gens, les femmes sont vêtues de châles, de voiles de couleurs. Est-ce qu'il y a une influence de l'Inde là-dedans? C'est bien possible. Et puis, on entre dans les maisons, les rues, on pousse des portails de fer, on entre dans des petites cours, très fraîches, les gens sont très accueillants. Et là, c'est des intérieurs chamarrés, de tissus, de couleurs. Et le sol des maisons est peint en rouge en mémoire d'une bataille remportée par l'empereur Ménélique à la fin du siècle dernier, qui a marqué le rattachement, la conquête, si on peut dire, de cette ville par Addis, par l'Empire, par ce grand pays qu'est aujourd'hui l'Éthiopie. C'est là qu'on va se balader jusqu'à 18h, là-bas si j'y suis, né au vent, à Harar, Éthiopie. Voilà, alors là on rentre dans Harar. Harar. La grande avenue d'Harar, donc ça c'est une des portes avec des maisons basses. La première chose qui frappe avant tout, c'est les 404. C'est le paradis des 404. Il n'y a que des 404. La plupart c'est des taxis, mais les 404 familiales, des 404 break, des 404 de toutes. Pour tout et partout. Ouais, on va voir les cassettes, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est le tube, hein?
Cette chanson là,
ouais, ouais,
c'est
ouais.
Une vieille chanson qui a été refaite.
Ah ouais.
C'est une vieille chanson.
Chourourou,
chourourou, fikr.
Fikr.
Fikr veut dire amour.
Chourourou,
chourourou, c'est si tu veux une espèce de berceuse pour les enfants.
Ah.
Tu veux bercer un enfant.
Chourourou.
Donc c'est genre je te berce mon chéri.
Oui, oui, c'est mignon. Thank you. c'est l'heure du 4, hein, là c'est sérieux. Tu vois que c'est bon pour les chèvres de prendre du 4 comme ça? Elles prennent du 4, les chèvres.
Ça va leur donner une petite euphorie.
Ça, c'est
le centre de vieille ville.
Ça, c'est le centre de la vieille ville. Cette petite place ronde avec une chèvre qui est en train de rigoler là-dedans. Et là, c'est une des deux églises, alors, celle-ci, oui. Puisque celle-là a été construite...
L'église orthodoxe.
L'église orthodoxe, ah oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, que c'est beau! Voilà, c'est tout à fait inattendu. C'est une fanfare, une harmonie qui sort d'un palais. C'est merveilleux, ils font le tour de la place de la vieille ville devant l'église. Et là, alors ce serait la maison Rimbaud qui serait là, la maison verte avec les volets bleus qui serait un bistrot maintenant. Et alors le chef d'orchestre, le majordome, là, est absolument formidable. Avec sa canne, il lance, il l'a fait tournailler. Et voilà la fanfare. Ça, c'est absolument merveilleux. C'est quoi cette fanfare?
Cette fanfare, c'est parce que demain, c'est le 28 mai.
Et le 28 mai, c'est l'anniversaire de la chute du Derg.
Oui, c'est ça.
De la chute de Mengistu.
Ouais. Mais ça va se passer aussi dans presque toutes les grandes villes d'Éthiopie. À Addis, il y aura une fanfare qui va descendre sur la Church Road, la grande artère d'Addis.
On est à Harar, donc, et c'est une ville... je disais qu'il y a un très très lourd passé. C'est toujours aujourd'hui la quatrième ville sainte de l'islam, qui doit son importance, qui a dû son importance à sa situation commerciale. Et on y faisait, on y vendait beaucoup de choses. On y vendait de l'ivoire, du café, du tabac, de l'or, du musc, du safran, des mulets, du blé et aussi des esclaves. Des esclaves, c'était une place où on vendait des esclaves, des tribus Angaro, Gouragé, Oromo, des ethnies nilotiques, puisque on n'est pas loin. Ceci est une autre histoire. On sait comment Arthur Rimbaud, eu quelque chose à voir. Alors là, si on tombe dans les grandes batailles littéraires et historiques, quelque chose malgré tout à voir avec ce commerce-là. Alors voilà, né au vent dans Harar.
Youssouf Ahmed, Hadji Youssouf Ahmed.
Hadji.
Youssouf Ahmed.
Hadji. Vous êtes allé là-bas?
Oui.
Mais Harar, c'est la quatrième ville sainte de l'islam, hein?
Ouais. Hey.
Où est-ce que vous avez appris le français?
Moi, qui travaille, 27 ans qui travaille avec le français, service social, à Général Moller.
Ah, voilà.
Général.
Général Moller.
Général Moller.
Oui. Il est parti avec Marseille, avec lui.
Ah, vous avez habité à Marseille?
Oui, Marseille. C'est les militaires.
Vous étiez avec les militaires?
C'est militaire, oui, avec militaire. Général, c'est militaire.
C'était bien?
Oui, bien. Et vous? Il est bien, tu vois?
Ah, nous, on est bien. Harar, on est très bien.
Ah, oui, bah, nous, on découvre la ville, là. C'est une belle ville, hein?
Ah oui, c'est bien. Harar.
Mais vous êtes Harari?
Oui, Harari, oui.
Ah, vous parlez Harari?
Harari, oui.
Alors, attendez, vous parlez Harari?
Oui, Harari.
Vous parlez Amari?
Amari, Éthiopie. Arabi.
Vous parlez arabe?
Arabe, oui.
Vous parlez?
Italie. Et France.
Merci ça, beaucoup. C'est bien.
Oui.
Vous avez quel âge?
Oh, 85.
85 ans?
Oui, oui.
Bon, ça va, vous êtes beau comme tout.
Oui, oui.
Hein?
Ah oui.
En bon état. Hein?
Oui. Bon, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Et bonne promenade. Hein? Bonne promenade.
C'est pas noir. Oui.
Bonjour, madame.
Quelqu'un qui parle Harari?
Ah, mais tout le monde parle Harari, hein?
Oui.
Moi, je voudrais bien entendre votre langue, parler votre langue. Alors, c'est un plaisir quand même d'entendre cette langue qui est parlée par 6000 personnes à peu près, hein, pas davantage, et qui est une langue quand même assez rare, qui a été écrite, mais qui est écrite en arabe. Alors là, on va rentrer dans, dans les ruelles de la vieille ville.
C'est des messieurs, ils ont la barbe qui est teintée de henné.
Oui, oui, c'est ça, c'est des barbes blanches. Mais on fait un peu.
Ils appellent ça un sunna. Ils mettent du henné sur leur.
Sur la barbe.
Sur la barbe.
Et orange vif, c'est vachement large.
Barbe rouge, c'est couleur. À Harar, Éthiopie. Une chose étonnante dans cette ville, ce sont les hyènes. Oui, j'ai bien dit les hyènes. Et on aime les hyènes dans cette ville. Il y a un type qui encore aujourd'hui fait un numéro à l'usage des touristes où il fait le repas des hyènes. Il donne à manger à des hyènes en public et il arrive à leur donner à manger de bouche à bouche, comme ça il met un morceau de, c'était quelque chose d'incroyable à voir, il met un morceau de viande dans sa bouche et les hyènes viennent et partagent avec lui ce morceau de viande. Et c'est que les habitants d'Harar sont reconnaissants à ces animaux qui assuraient l'hygiène. Hyène, c'est un peu comme hygiène. Et bien, pendant très longtemps, c'était les hyènes qui étaient chargés de l'hygiène, bouffant les détritus et les excréments de cette ville. Je ne sais pas s'il y a d'autres cas. Il y a sans doute d'autres cas dans l'histoire, mais c'est la première fois que j'entendais parler d'une chose pareille. Et c'est formidable les premières fois. Et là, c'est la première fois à Harar. On est vraiment dans le monde de l'Orient, les voyageurs du 19e siècle, c'est presque trop, hein. Alors, c'est quoi cette maison avec ce balcon de bois là-haut?
Oui, c'était la maison de Rastafari.
Du Rastafari, oui. De Négus.
De Négus, Al-Selassie.
Al-Selassie a habité,
oui,
ici?
Il a habité. À 16 ans, il était gouverneur du Harar.
Il était gouverneur ici,
oui,
du Harar.
Du Harar. Il habite dans cette maison. Maintenant, il y en a un cheikh. Il donne les médicaments traditionnels dans cette maison.
Le cheikh?
Oui, cheikh.
Ah, ils donnent des
médicaments. Les musulmans, ils ont
le cheikh. Oui, oui, oui. Et alors là, bon, on va avancer dans cette maison qui est sublime et en loque. Complètement en loque.
Une super balustrade.
La balustrade en bois est absolument magnifique en haut. Et là, il y a des piliers en bois.
Tout est pas en jaune, vert, bleu.
C'est vraiment le pays des couleurs. Alors, on entre là. Qu'est-ce qui se passe dans cette cour? C'est assez crasseux, magnifique. On sait pas. Il y a une chèvre là. On est en train de faire un peu de feu. Ça sent bon, c'est du bois d'eucalyptus. Des femmes qui préparent à manger des oignons, du riz. Hadji Bouchra. Hadji Bouchra, branch of Cheikh Turumbedous, traditional healer. Ah, il peut soigner l'asthme, le diabète, la paralysie, tout un tas de désordres, les hémorroïdes, le cancer, les gastrites, les problèmes gynécologiques, les problèmes de folie et l'épilepsie. D'accord. The treatment is given by the help of God. Donc on est tranquille de ce côté-là, puisque Dieu s'en occupe. Also, the medicine is given without payment. On ne paye pas. The patient and all other people, including organization, help us if you can. Thank you. Donc on ne paye pas, mais on donne ce qu'on peut. Voilà, quoi, c'est ça le principe. Alors on va entrer. Oh, alors là on entre dans un endroit. Écoute, ça c'est extraordinaire, c'est l'heure du 4. Et c'est exactement comme à Sanaa au Yémen, c'est-à-dire que les hommes sont allongés là-bas, abandonnés, à l'abandon, disons, on se laisse aller derrière leur tas de feuilles de quatre. Là, c'est l'heure un petit peu mélancolique, quoi. Hein, on est un peu pensif, on est un peu parti pour tout dire. Alors donc, chacun a devant lui son tas de feuilles et des gobelets avec de l'eau. On boit beaucoup avec le cat, il faut boire beaucoup d'eau. Et puis, ça sent très bon parce qu'il y a le feu de bois derrière et on brûle aussi de l'encens. Et alors, là, il y a le cher qui nous montre un livre. Il va falloir qu'on... Et là, il y a une femme que j'avais pas encore remarquée sur le côté à gauche avec le petit enfant. Et le cher est accroupi comme il se doit devant un tapis magnifique qui représente la Mecque. Et au-dessus du tapis, une pendule dorée qui indique 11h-5, c'est-à-dire 5h-5. Alors on va essayer de s'approcher du cher, au fond de vue peut-être ses souliers. Voilà, alors il faut faire très attention. Mais on sourit bien sûr, et on a tort. On a tort parce que ce qui se passe là, ce sorte de petit dispensaire entre guillemets, raconte... deux choses. Il raconte la misère de la santé dans un pays comme ça, l'accès aux soins. On n'ose pas penser à ce que peut être l'accès aux soins en Éthiopie, les pays les plus pauvres du monde. Et ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est que cette façon de soigner avec des herbes et des prières, les herbes sont peut-être plus efficaces, quoique, renvoie quand même à quelque chose qui a été finalement consenti, c'est une prise de, une considération pour les tradis praticiens, ce qu'on appelle les tradis praticiens dans d'autres régions d'Afrique. Les médecins modernes les ont pris en considération et travaillent avec eux et obtiennent des résultats. N'oublions jamais qu'un médecin honnête, il y en a beaucoup, vous dira que 50% des personnes qui viennent le consulter n'ont rien d'après la science qu'on lui a apprise. Alors, sourire, mais pas trop d'ironie. Alors maintenant, tout le monde a retrouvé le sourire. Il y a de plus en plus de fumée avec l'encens qui monte dans cette pièce, avec ces hommes qui sont mélancoliques et plutôt partis avec le cat, les doses aiguës de cat. Ils sont tous accroupis contre ce mur jaune, mais vraiment un jaune d'or, avec au-dessus le reste du mur peint en vert. On adore les couleurs ici à Harare, c'est la capitale de la couleur. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Il nous a confié un livre.
Il nous a trouvé un témoignage d'un touriste japonais qui était de passage ici et qui a eu une blessure au pied. Mm-hmm. Et le cheikh lui a mis des herbes médicinales. Et il dit que la condition de son pied, ça s'améliore. J'ai appris beaucoup de choses sur le cheikh aussi. Et je crois que ça, il a une très grande connaissance des herbes médicinales.
Et ça, il a des cahiers entiers de témoignages comme ça, de gens qui ont été soignés grâce à lui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes?
Cheikh Turumbadous
Hadji Bousra Salé.
Hadji Bousra Salé.
C'est un petit peu pâteux parce que le cher est en train de prendre son cat.
Cheikh Turumbadous Hadji Bousra Salé, Balalo. Sera-il, il est Bahir Madanissa. የባህል መድኃኒት ለታመመ ሰው የተለያየ በሽታ ለመጡ ሰዎች ብዙ እያከምን ነው። እኔ ጋም አባቴ ጋም ብዙ እያታከምን ነው ሰው።
Actuellement, je pratique la médecine herbale et chez moi, aussi bien que chez mon père, il y a beaucoup de patients qui viennent pour mes services.
Comment vous faites pour soigner la folie ?
On lui donne ça dans la tête. On lui administre ça par voie du nez.
Par le nez, contre la folie ?
Oui.
Est-ce que vous croyez qu'Arthur Rimbaud est venu dans cette maison ?
Rimbaud ? እዚህ ጋር መጥቷል። እዚህ አሁን በቅርብ ጊዜ በራምቦ ቤት ስመረቅ አይቻለሁ። እዚህ
Il n'est pas rentré dans la maison, il est resté sur le seuil. J'en ai entendu parler lors de l'inauguration de la maison Rimbaud.
Ah, il est venu ici, vous croyez ? Il n'est pas rentré, mais il est resté à l'entrée là.
Non, il n'est pas rentré.
هباتي ألغون يحوي جبوبنا نبل بلوبة بسافة قمرة هباتي يبلون رمت بأرض الزهر يا علي يا حبيب يا
Alors, Harare égale Rimbaud, mais égale surtout la fausse maison de Rimbaud. Tout le monde le dit, vous ouvrez un guide sur l'Éthiopie, on se donne même pas la peine de vous faire croire que c'est la vraie maison de Rimbaud, c'est la fausse maison de Rimbaud. Il y a un musée Rimbaud, mais c'est une fausse maison. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que pour cette fausse maison de Rimbaud, eh bien, l'ambassade de France en Éthiopie est impliquée, l'ambassade d'Italie, l'ambassade de Grande-Bretagne, l'UNESCO, le musée de l'Institut d'études éthiopiennes de l'Université d'Addis Abeba, le Centre français des études éthiopiennes, l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'Institut des études orientales de Naples, tous ces organismes hautement respectables, quoi de plus respectable que tout ça, eh bien, sont des partenaires de la fausse maison de Rimbaud qui honore là la présence d'un poète qui n'était plus du tout un poète, qui avait cessé toute activité poétique depuis l'âge de 20 ans et qui était venu comme d'autres aventuriers, j'allais dire comme n'importe quel aventurier, tenter sa chance dans les affaires, dans le commerce, y compris le commerce d'armes. C'est un cas de fétichisme littéraire. Rimbaud est sans doute un des plus grands poètes écrivains de la langue française, mais là, à Harare, on est quand même un peu perplexe et, pour tout dire, un petit peu agacé. Ah, voilà la fausse maison de Rimbaud. C'est la seule maison où Rimbaud n'est jamais entré.
Il a été construit après sa mort.
Ce qui est formidable, c'est que Rimbaud ici n'a rien à voir avec Rimbaud. Et on a quand même fait une maison Rimbaud parce qu'on tient absolument à ce qu'il y ait ici une maison Rimbaud. Et c'est évidemment très agaçant. Alors là, il y a une plaque indiquant pour quelle raison la maison Rimbaud a été restaurée et aménagée, par qui et comment. Et ce qui est intéressant peut-être de savoir, c'est qui a soutenu les sponsors. Il y a Air France, il y a Alcatel, il y a Electric World, il y a Nestlé, il y a Pierre Berger, il y a Renault, il y a le Sheraton d'Addis Ababa, il y a Total, il y a la Société parisienne de ventilation et d'électricité, et puis il y a Yves Saint-Laurent. Voilà ceux qui ont, quelques-uns parmi les sponsors qui ont rendu possible cette fausse maison Rimbaud. C'est formidable tout cet effort pour une fausse maison Rimbaud. C'est très étonnant cet acharnement à récupérer Rimbaud qui est irrécupérable, quoi. Il s'est arrangé pour être absolument irrécupérable et c'est comme une sorte de cruauté, ces hommages des rimbaldolâtres. C'est un tourbillon, un festival de couleurs. C'est invraisemblable de beauté, de grâce et de pauvreté aussi. Mais les gens adorent les couleurs ici. Et c'est une sorte de saris. Mais c'est pas tout à fait des saris que les femmes portent ici. Mais tout est en couleurs. On adore les couleurs. On se gave de couleurs et de musique et de viande. Là, ça, c'est la viande de chameau. C'est le boucher du chameau. Sur ce fond rouge sang, il y a ces morceaux de barbac couverts de mouches qui pendent avec deux couteaux affûtés. Les gars sont en train de dépecer le morceau de chameau. Ça, c'est le coin des bouchers. Là-bas aussi, on vend de la viande. Et quand même, de temps en temps, je vois passer un chasse-mouche sur les morceaux de viande qui sont accrochés. Mais ce qui vous saoule l'œil, ce qui vous saoule l'âme, c'est quand même les femmes partout, le regard de ces femmes, ces jeunes filles, qui sont plus magnifiques les unes que les autres, qui sont vraiment superbes, les bracelets, les boucles d'oreilles en or, les petites perles incrustées sur le nez. C'est vraiment une grâce absolue. Là, c'est plutôt du bois. Là, c'est des épices. Épices très rouges, jaunes. C'est toujours le même émerveillement. Enfin, c'est aussi toujours évidemment le même malentendu. Il faudrait être capable vraiment de limiter ses émotions. Mais il y a des jours où on a envie de se laisser aller tout tranquillement. Là, une dame avec un foulard vert, cru, rouge. Des légumes. On croise des gens qui portent des sacs énormes, des tas de bois sur la tête. Voilà la 404. Taxi. Un moment heureux, un moment superbe, le ciel est rose, chaud, doux, accueillant, et la lumière comme ça qui suit les ruelles où il n'y a que des murs. Une femme qui passe. Une femme qui passe avec un enfant sur le dos. Elle a des... Ah, c'est magnifique cette ruelle-là. Là, il y a juste un arbre. En fait, les maisons sont refermées sur elles-mêmes. Là, il y a des vignes qui débordent en haut. Les enfants sont très, très beaux. Petite fille, là, qui nous suit. C'est l'heure suave. Je m'appelle à la prière. Là, le ciel est presque orange. C'est un manguier que je vois... par cette porte entrouverte, une porte verte en tôle, en hauteur, comme ça. Il y a un manguier qui se découpe dans le ciel. Les ruelles de plus en plus étroites. De là, on imagine très bien ce qui a ébloui les voyageurs vers l'Orient. Mais il faut dire aussi que tout ça a été une sorte de... d'exubérance littéraire qui aujourd'hui s'est transformée en quelque chose d'un peu chiatique, d'un peu de comportement, quoi, un peu une poésie petite bourgeoise, quoi.
Oh, cet arbre est magnifique. Oh, j'ai jamais vu un arbre aussi beau que ça. Gigantesque.
Qui monte au-dessus des murailles blanches, blanchies.
Ah, c'est la mosquée. Hey. C'est la mosquée, ça.
Oui.
Tu as vu cet arbre-là? Cet arbre est extraordinaire. On va entrer dans la cour de la mosquée. Il y a un chat qui se sauve. Il y a cette odeur d'encens et qui nous accompagne. Où que nous allions, partout. Voilà, ouais.
Et ça, c'est la mosquée avec le chat qui va faire sa prière. Salam alaikum. C'est étonnant, ces maisons décorées, ces décors. Décors géométriques, stylisés de fleurs, avec des sourates. C'est des sourates du Coran, ça, hein? Un peu au hasard de la vieille ville, et on a monté quelques hautes marches, très hautes marches, un peu comme dans les maisons de Sanaa. Et puis là, c'est une très jolie maison décorée, avec des cadres de pierre peints de jaune, de rouge, de brun, des encadrements avec des vanneries, une jolie pendule, des photos de famille, c'est très cosy, avec des coussins coloriés. Et là, il y a une dame qui est une chanteuse, on dit qu'elle est très populaire et très connue, elle est aveugle. Elle était en train de regarder à la télé les discours et les manifestations du 28 mai à 10, mais on espère bien qu'elle va accepter de chanter pour nous. Et on a été conduit là par un monsieur qui est journaliste sportif et qui est chanteur lui-même. Voilà les hasards heureux de la balade.
زرور يا نرجس هل سما سما نرجس صحبان الله بلاي ما يلو صحبان ربي بلاي ما يلو هي هي بدايا لحلى شواء مو زالي ورا بام بلاش بدايا لحلى شواء جنبوت وعلي بيه حوجك ويا التان بيه دلزنا وقينا وطوبي هدج بيه حمست دقيقة ما تلاي زل خشكوم لكن من قاشا خوايا الخانقوم نشي حاج دي جماوة وقتي ملقين قوية
Cette balade à Harare, Né au Vent, un reportage de Guy Ventil et Daniel Mermet. Merci à Indale, Hadji, Mohamed Boukra, Bertrand Hirsch du Centre français d'études éthiopiennes, Nouria, Mohamed Bakri et Alain Gascon, traduction Michael Ali. À lire de Jean-Claude Guigaud et Raymond Depardon, La Porte des Larmes aux éditions du Seuil. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique ce soir, il y avait Lidouine Caron et Benjamin de la Gâtinais, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur, de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est demain à 17h.